Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres. En fait, vous êtes un peuple peu nombreux par rapport aux autres. Mais le Seigneur vous aime. Il a accompli ce qu'il a promis à vos pères. Le Seigneur vous a fait sortir à main forte. Il vous a libéré de la maison de servitude. Nous tous qui sommes rassemblés ce matin, nous ne sommes ni plus nombreux, ni plus savants, ni même meilleurs que les autres. Si nous sommes rassemblés, c'est que nous savons aimer de Dieu. C'est que nous avons été libérés de nos maisons de servitude. C'est que nous comptons sur sa fidélité. Cet amour, cette libération, cette fidélité, nous voulons la célébrer ce matin par l'écoute de la parole, par nos chants, par nos prières. Nous voulons entendre et proclamer que Dieu nous aime, que Dieu nous libère, que Dieu est fidèle. Je vous invite à vous lever. Réjouissons-nous de rendre ensemble un culte à notre Dieu. Et vous trouverez au tout début du cantique les spontanés. Et je vous invite donc à chanter « Me voici, Seigneur Sauveur ». Que ma vie entière chante ta louange. Tu es ma vie. Tu es la paix sur mes erreurs, la force dans l'épreuve. Tu es la lutte contre la mort, source de miséricorde. Que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es présent déjà dans l'histoire d'Israël et dans la lutte contre toutes les oppressions et dans nos vies désorientées. Que ma vie tout entière chante ta louange. Entre moi et ce qui m'écraserait, tu mets l'infini de ton amour. Entre moi et toi, comme le Père serre son enfant contre lui, tu supprimes la distance. Que ma vie tout entière chante ta louange. À cause de toi, je mesure l'éphémère de ma vie à la fragilité de mes luttes, mais par ton amour, je l'assume. Que ma vie tout entière chante ta louange. Et je vous invite à chanter le cantique 41-38. 41-38, page 614, louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia. Prenez place. Bienvenue à chacun et à chacune pour ce temps de culte, que vous soyez des fidèles parmi des fidèles un peu moins fidèles, ou de nouveaux venus, ou de passage, que vous veniez d'Inde ou de l'île de Ré. Vous êtes les bienvenus. Ou d'ailleurs, hein, mais je n'ai pas forcément tout noté. Je n'ai pas pris pour la louange, vous l'aurez remarqué, le psaume du jour, parce que le psaume du jour me semblait plus indiqué pour la repentance, donc nous l'aurons tout à l'heure. Je vous invite à la prière, avec le psaume 51. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Nous restons assis pour chanter tel que je suis. Dans le livre du prophète Osée, le prophète annonce que le Seigneur relève ceux qui sont brisés. Voici ses paroles. « Venez, retournons vers le Seigneur, car il a déchiré, mais il guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous, nous vivrons devant lui. » Efforçons-nous de connaître le Seigneur, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra vers nous comme vient la pluie, comme l'ondée du printemps qui arrose la terre. Au-delà de nos déchirures et de nos blessures, le Seigneur est celui qui guérit et reconstruit. Il relève et nous appelle à la vie. Son pardon est une pluie qui recouvre nos manquements. Sa bénédiction est comme l'ondée du printemps. Je vous invite à vous lever pour chanter « À toi nos louanges ». Écoutons ce que Dieu nous demande et nous donne la force de faire. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel. Tu dirais alors, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera descendre pour que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer, tu dirais alors, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer le Seigneur ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Pour qu'aujourd'hui je sois libre. Prenez place. Deux lectures bibliques pour ce jour. La première dans le livre de la Genèse, elle est un peu découpée, mais dans le livre de la Genèse. Et la seconde dans l'Épître aux Romains, chapitre 5. Avant de les écouter, nous prions. Et j'en profite pour vous rassurer. Je me suis rassuré moi-même, j'ai vérifié, j'ai ma prédication. Elle est là. C'est bon. Nous prions. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés réelles ou défaillantes, rebelles ou défaillantes. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen.
Genèse 2, 7, 9, 3, 1, 7, 1. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus.
Romains 5, 12, 19. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, La mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devrait venir. Mais il n'en va pas de don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que la désobéissance d'un seul être humain, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste.
Sadia, qui vient d'Inde, va nous lire le passage de Genèse dans sa langue. Alors, peut-être une petite déception pour certains d'entre vous, sa langue, c'est l'anglais.
The book of Genesis, chapter 2, verses from 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, the good for the food, the tree of life also in the midst of the garden, and the trees of knowledge of good and evil. And book of Genesis, chapter 3, verses from 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes will be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave all unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. This is the word of God.
Parle-moi.
Thank you.
Commandement de Dieu, vous avez endolori mon âme. Commandement de Dieu, serez-vous 10 ou 20? Jusqu'où rétrécirez-vous vos limites? Enseignerez-vous qu'il y a toujours plus de choses défendues, de nouveaux châtiments promis à la soif de tout ce que j'aurais trouvé beau sur la terre? Commandement de Dieu, vous avez rendu malade mon âme. Vous avez entouré de murs les seules eaux pour me désaltérer. Mais je me sens à présent, Nathanaël, plein de pitié pour les fautes délicates des hommes. C'est par ces mots que débute le livre 6e des nourritures terrestres d'André Gide. Et évidemment, pour quelqu'un qui, comme Gide, essaye de justifier ses désirs et le fait de s'y adonner, y compris ceux que notre société condamne le plus, tout commandement est une souillure, toute interdiction, toute limite est une atteinte insupportable à sa liberté. Pourtant, dans ce texte, des interdits, il n'y en a qu'un seul. Un seul commandement. Et c'est déjà trop pour l'être humain, homme et femme. Un seul commandement, une seule limite. Tu pourras manger de tous les arbres, mais de celui-là, tu ne mangeras pas. Insupportable. Nous avons une tournure d'esprit qui nous fait entendre dans le commandement de Dieu davantage l'interdiction de cet arbre, tu ne mangeras pas, que la permission de tous les autres, tu pourras manger. Nous sommes ainsi faits que tout interdit attire et attise notre désir. Il est difficile pour nous de voir dans les limites et les interdits un bienfait. Pour pouvoir le faire, il faudrait être dans la confiance, accepter que celui qui pose une limite, un interdit, le fait pour notre bien, que ce n'est pas juste une façon de nous frustrer pour nous frustrer, que ce n'est pas un acte tyrannique. Or, c'est difficile lorsqu'on veut être soi-même calife à la place du calife, Dieu à la place de Dieu. Or, en ces temps-là, l'homme et la femme vivaient dans la confiance en la parole donnée et reçue. Ils mangeaient de tous les arbres et se gardaient de celui de la connaissance du bien et du mal, réservé à Dieu et cause de leur mort, s'ils en mangeaient. Mais voilà qu'arrive le serpent, créature rusée, intelligente. On a fait, dès avant le Nouveau Testament d'ailleurs, du serpent la figure du diable, du démon, de l'ennemi. Or, le récit ne dit rien de tel. Dans le récit biblique, c'est un animal rusé, intelligent, trop intelligent, sans doute assez pour son propre bien et pour celui de ceux qui l'écoutent. Le serpent est celui qui insinue le doute, celui qui est incapable, à force de raisonner, de faire confiance. Il soupçonne une pensée secrète derrière toute parole. Il croit distinguer un langage double, une parole qui ne serait pas directe, qui ne serait pas franche. Et je ne pense pas que ce soit par hasard que le récit fasse tenir ce rôle par un animal qui a la langue bifide, une langue double, une langue fourchue. Comme sa parole à lui est double, il va s'imaginer que toute parole l'est. Il va persuader que ses auditeurs qu'il y a derrière tout discours une motivation cachée, trouble et mal intentionnée. Je pars ici du principe que le serpent est dupe de son propre discours. Mais si ça se trouve, c'est un manipulateur né, un pur manipulateur. Mais ça ne change rien au fond du problème. Au début, la femme résiste. Elle rappelle les paroles véritables de Dieu, non pas tant en les citant qu'en affirmant qu'ils y obéissent. Ton histoire, serpent, de prétendre que nous n'avons pas le droit de manger des arbres ne tient pas debout, puisque nous en mangeons. Il y a juste cet arbre-là, cet arbre de la connaissance du bien et du mal dont Dieu nous a dit que si nous en mangions, nous en mourions. De celui-là seul, nous nous abstenons. Et là, la perversité du serpent entre en jeu. Il accuse Dieu d'être un Dieu jaloux, non pas dans le sens biblique du terme, zélé, amour, ardent d'amour, mais dans le sens mesquin. Un Dieu qui ne veut pas que les autres bénéficient de son pouvoir, non pas parce qu'il est créature et les autres, il est créateur et les autres créatures, mais parce qu'il redoute de perdre ses privilèges. Sa parole n'est plus un commandement pour la vie, elle devient un commandement pour la mort. C'est du moins ce que sous-entend le serpent. Vous serez comme des dieux. C'est au tour de la séduction, de l'interdit d'entrer en jeu. La femme voit que le fruit est séduisant, désirable. En plus, il rend malin, intelligent, supérieur. Résultat, ils en mangent et effectivement, leurs yeux s'ouvrent. Ils deviennent peut-être plus intelligents. Ils ne meurent pas tout de suite, mais ils voient. Et que voient-ils ? Qu'ils sont nus. Alors peut-être convient-il de s'interroger sur cette étrange révélation, sur cette surprenante découverte, ils sont nus. Alors je vais faire un léger détour qui pourra peut-être sembler à certains être une publicité, mais par un livre que j'ai lu il y a peu, un essai de Charles Daniel Mayer, qui a travaillé pour la Ligue pour la lecture pour la Bible. Bon connaisseur des Écritures, Charles Daniel Mayer est sociologue de formation. Sa dernière publication porte sur la nudité, notamment dans sa dimension biblique, mais surtout sociologique, notamment à travers du prisme du naturisme. J'ai l'impression qu'il essaie de nous dire quelque chose de lui, mais bon. Il a intitulé ce livre « Le corps beau et le regard ». Pas mal, hein ? On l'entend bien comme ça, mais pas mal de gens, en lisant le titre, n'ont pas perdu. Bon, bref, comme le laisse supposer l'ouvrage, comme le titre le laisse supposer, l'ouvrage cherche à montrer que la nudité n'est pas honteuse en soi, mais qu'elle le devient dans le regard de l'autre, lorsque ce regard n'est plus innocent, lorsqu'il devient ambigu, qu'il convoite. Ils ont toujours été nus, nos deux transgresseurs. Leur situation n'a pas changé, mais c'est le regard qui a évolué. Ce n'est plus celui de la confiance, c'est le regard de celui qui doute. Or, quand on doute de l'autre, être nu, se laisser voir nu, c'est être vulnérable. L'autre n'est plus celui à qui on fait confiance, mais celui qui va nous tromper, nous attaquer. On ne peut pas rester nu face à lui, on doit se protéger. Non seulement la confiance est rompue l'un envers l'autre, mais également envers les tiers, puisque Dieu lui-même devient l'objet du soupçon. Incapables d'assumer leur faiblesse, ils vont rejeter la faute sur les autres. Ainsi Dieu n'est plus celui dont la parole donne la vie, mais celui dont les commandements mènent à la mort. Lorsque Dieu demandera à l'homme pourquoi il a fait cela, il répondra « C'est à cause de la femme que tu as placée à mes côtés. Pas sa faute à lui, l'homme, bien sûr que non. » Celle de la femme d'abord, mais surtout celle de Dieu. Après tout, c'est lui qui a placé cette femme perfide à côté de lui. De même, la femme accusera le serpent, incapable d'être nu devant Dieu. Une fois encore, ils l'ont toujours été et cela ne leur posait aucun problème. Mais ayant perdu l'innocence du regard, leurs yeux ayant été dessillés, ils ne supportent plus la vérité, leur faiblesse, leur vulnérabilité, leur responsabilité. Ce récit a connu de nombreuses interprétations. Il a été utilisé pour développer le concept de péché originel sur une lecture quelque peu douteuse du récit et de l'interprétation qu'en fait Paul. Si péché originel il doit y avoir, il ne faut probablement pas le comprendre comme une faute qu'auraient commise les premiers humains, mais comme ce qui se trouve à l'origine de la séparation entre les humains et Dieu. La confiance initiale envers Dieu a été rompu. Dieu n'est plus celui qui nous permet et nous promet la vie, mais celui qui veut nous la brider, nous la rétrécir, comme le laissent entendre les vers de Gide, cités au début de la prédication. Et cette confiance peut être restaurée en Jésus-Christ, celui qui a vécu pleinement, en suivant les commandements de Dieu jusqu'au bout, non pas avec crainte et tremblement, mais avec confiance. Vivant la parole et par la parole. En suivant Jésus-Christ, nous pouvons être rachetés de cette faute initiale qui consiste à soupçonner Dieu de vouloir notre malheur. Soupçonner Dieu n'est pas un manque d'intelligence, au contraire. Souvenez-vous que le serpent est décrit comme un animal rusé ou intelligent, les deux mots sont un peu équivalents dans le texte biblique, mais c'est parce qu'il est lui-même rusé qu'il soupçonne Dieu de l'être. Vous connaissez sans doute le bon mot de Voltaire, « Si Dieu nous a fait à son image, nous ne lui avons bien rendu. » Nous n'avons plus ce regard innocent de l'enfant sur ses parents, cet enfant que Jésus nous donne en exemple. Portons sur Dieu ce regard qui ne soupçonne pas d'emblée la malveillance ou le calcul. Ce n'est pas une chose aisée puisque des siècles d'éducation religieuse, de prédication ont provoqué en nous ce retournement assez surprenant. Dieu est devenu le grand tentateur. Ce qui devait être les garde-fous de notre vie et de notre liberté est devenu à nos yeux une menace, des pièges permanents et insidieux destinés à nous faire chuter. Ce regard mauvais, biaisé, subverti, est bien la source de tous nos péchés, c'est-à-dire de tous nos éloignements de Dieu. Il est possible que d'un point de vue historique et anthropologique, ce récit a essayé de répondre à la question que l'humanité s'est toujours posée. Pourquoi sommes-nous différents des autres animaux? Pourquoi sommes-nous conscients de notre mortalité? Pourquoi nous posons-nous des questions de moralité? Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre aussi simplement que les animaux, dans l'insouciance supposée? Le récit biblique laisse entendre que c'est un choix que nous aurions fait, un choix irréversible. Mais la bonne nouvelle, telle que nous la rapporte notamment l'apôtre Paul, c'est que si l'on ne peut effacer ce péché originel, on peut néanmoins guérir de ses conséquences néfastes. Pour cela, il nous faut retrouver, selon l'exemple du Christ Jésus, une confiance enfantine, une foi sans calcul. Le récit de la Genèse que nous avons lu aujourd'hui nous invite d'une part à ne pas utiliser notre intelligence à nos dépens et d'autre part à ne pas projeter sur Dieu notre propre duplicité. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme, l'être humain, devint un être vivant. Dieu nous a voulu vivants, non pour que nous soyons des animaux ou des dieux, mais pour que nous soyons des êtres humains en relation avec lui, dans une relation de confiance. Amen. Comme un cerf altéré brame, psaume 42, nous sortons les strophes 1, 3 et 4, 1, 3 et 4 du 42, page 62. C'est celui que je voulais vous faire chanter la semaine dernière et je me suis trompé.
Oh, Seigneur, ainsi mon âme.
Non, nous restons debout. Pardon. Nous restons debout pour la confession de foi. Donc, vous trouverez les confessions de foi sur la fin du cantique. Et nous disons celle qui porte le numéro 5 et qui oui, numéro 5. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant, malgré le mal et la souffrance. Nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour tous les humains. Amen. Et nous chantons « Heureux qui se confie en toi ». Prenez place. C'est maintenant le moment du don, le temps de l'offrande. Offrande qui peut se faire, si vous le souhaitez, par moyen électronique. Seigneur Dieu, éternel est ton amour. Nous nous présentons à toi avec cette offrande et les signes de notre amour pour toi et pour le monde qui nous entoure. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen.
Bonjour à chacun de vous. Merci de votre présence avec nous ce matin. Merci à Yvon Serge, Jean-Michel et Nicolas qui a été l'équipe qui vous a accueilli ce matin et à Marie-Vonne qui est à l'orgue ce matin. Merci à Vincent pour cette prédication, pour la conduite de ce culte. Cette semaine... Ah oui, dans les merci, je l'avais mis plus loin, mais voilà. Mais merci Nicole pour avoir changé tous les spontanés dans les recueils de chants. Cette semaine, mardi, il y a la prière à 7h et la chorale à 19h15. Mercredi, il y a la prière à 18h. Mercredi, il y a un service funèbre à 14h. Madame Christiane Chevrier, c'est bien ça ?
Chevreux,
pardon. Et voilà, c'est moi qui ai mal écrit, excusez-moi. Et puis, donc j'ai dit mercredi la prière, oui, tout à fait. Donc, jeudi, il y a l'étude biblique à 20h. Ici au temple, dans la petite salle. Et puis, vous avez vu qu'il y a la revue paroissiale nouvelle. N'oubliez pas de la récupérer en sortant. Je vous rappelle aussi qu'il y a une affiche sur la porte qui concerne le week-end du consistoire. Donc c'est un week-end où il faut s'inscrire. Donc n'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez... y participer. En venant ce matin, j'ai eu la surprise d'entendre sur Radio Semnos, ils ont présenté un monsieur Vincent qui participait à une table ronde. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était Vincent, notre pasteur.
Il y a un an que je le fais, mais...
Et ben voilà, moi je l'ai découvert ce matin. Donc si vous voulez découvrir les Actes des Apôtres, en ce moment, le dimanche matin, il y a une table ronde sur les Actes des Apôtres sur Radio Semnose. Et puis, je vais laisser la parole à Norbert qui va vous présenter les conférences de carême de France Culture.
Bonjour à celles et à ceux que je n'ai pas salués. Donc, comme chaque année, les conférences du carême protestant, et catholique d'ailleurs, mais là, je vais vous parler du carême protestant. Trois questions et une petite remarque, petite anecdote. D'abord, qui ? La conférencière de cette année s'appelle Nathalie Chaumet. C'est une des deux pasteurs de l'église protestante unie de l'Étoile à Paris. Deuxième question, quoi ? Alors, le thème, très intéressant de mon point de vue, avec deux mots, audace et geste. Audace, j'y reviendrai. Donc, l'audace de vivre et l'autre mot, les gestes. Voilà, merci, vous suivez. Et des gestes pour espérer, à partir de l'évangile de Luc. Troisième question, quand et où ? Alors, où, Pierre l'a dit, sur France Culture, à 16h. Alors, c'est pas un horaire très pratique, mais il faut savoir que c'est, comme chaque année, téléchargeable et podcastable, c'est un mot bizarre, pendant un an, et écoutable à vie. Sur France Culture, il y a enfin pas que France Culture, mais on peut réécouter à vie, mais on ne peut télécharger ou podcaster que pendant un an. Et puis un petit clin d'œil pour les amatrices et amateurs, je sais qu'il y en a, je ne vais regarder personne, de Scrabble, parce que audace, c'est un mot que j'adore. Alors, je ne dois pas dire j'adore, parce qu'on ne doit adorer que Dieu, mais que j'aime beaucoup en tout cas, parce que l'anagramme de audace, c'est cadeau. Et c'est un beau cadeau qui nous est fait chaque année avec les conférences du carême protestant. Voilà, merci.
On n'en a pas parlé, mais vous avez dû le voir en arrivant. Il y a une expo quand même dans le hall. Il y a une expo, donc il y aura toujours... Alors, le dimanche, il y a... Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui.
Non, c'est pas ça.
D'accord.
Bonjour à tous. Monsieur Henri Terfeken a connu ma mère. Nous serons tous là-bas. Ma mère et moi.
Merci Jean-Michel. Oui, donc il y a une permanence de deux photographes le dimanche. Donc n'hésitez pas aussi à les interroger, à parler avec eux. Voilà. Le thème, donc vous l'avez noté, c'est regard. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, dans ce monde, des femmes et des hommes ont faim, de pain bien sûr, mais aussi de tendresse, de dignité, de justice. Seigneur, dans ce monde, des femmes et des hommes meurent parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Seigneur, dans ce monde, des mains sont fatiguées, des genoux chancellent, des cœurs souffrent. Nous te demandons du pain pour ceux qui ont faim d'amour, ta lumière pour ceux qui sont perdus et ta parole pour ceux qui désespèrent. Nous te demandons ta force pour ceux et celles qui n'en peuvent plus, un chemin de paix pour l'immense armée des réfugiés, des immigrés, pour celles et ceux qui sont persécutés, traqués, emprisonnés, torturés, et la chaleur de ton amour pour celles et ceux qui sont abandonnés. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, sans peur devant la mort, témoignent de leur foi et poursuivent le combat pour la justice. Seigneur Jésus, toi le seul juste devant Dieu, toi qui as été livré comme un coupable entre les mains des hommes, toi qui fus jugé, condamné, supplicié, nous t'apportons la souffrance des hommes et des femmes. Prends pitié, rends l'espérance, car tu es mort pour celles et ceux qui meurent, et tu es ressuscité pour les appeler à la résurrection. Seigneur, tout cela, nous te le confions et nous te le demandons dans le nom de ton Fils, lui qui nous a enseigné à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. »
Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction, ainsi que pour le dernier cantique que nous chanterons après. « Toi, mon frère, toi, ma sœur, sais-tu que tu es l'ami de Dieu ? Il te précède et t'accompagne. Dans ta peur, il est une danse. Dans ton désert, il est une espérance. Dans tes joies, il est sourire. Dans ton attente, il est le désir. Dans ta peine, il sèche tes larmes. Dans ton combat, il te désarme. Dans tes projets, il est chemin. Dans tes nuits, il est le matin. Que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous fortifie et vous donne la paix. À lui seul soit le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. La paix du Seigneur. Bon dimanche à tous. Bon carême.